La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bienvenue dans Europe Soir, l'info de 7h. Dernière heure, c'est la mort de Jean-Louis Trintignant à l'âge de 91 ans. On y revient bien évidemment en détail dans ces 2 heures d'info. Dans un instant, en effet, la semaine politique passée en revue par les experts de Paris Match, Europe 1 et JDD. Et puis à 19h15, tout juste rentré d'une tournée européenne, le patron de la fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani. Bon début de soirée sur Europe 1, il est 18h. Connaissez évidemment le générique d'un homme et une femme. Et bonsoir Hélène Zelani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
L'information de cette dernière heure, c'est bien sûr la mort de l'immense acteur qui était Jean-Louis Trintignant.
Oui, l'un des plus grands acteurs français qui vient de nous quitter à 91 ans. Ce film, il en parlait sur Europe 1 en 2008 au micro de Frédéric Taddeï.
À un moment, j'ai hésité parce que j'aime beaucoup Claude, j'aime beaucoup Anouk, je les aime beaucoup, c'est vraiment ma famille. Et ils m'ont bien sûr proposé ça. Enfin, Claude avait l'idée de refaire. Et puis j'ai hésité un moment, puis après je me suis dit non, quand même, c'est peut-être une mauvaise action. C'est spéculer trop sur le succès de. Un homme et une femme. C'est trop. Non, c'est malhonnête. Surtout quand on avait fait un qui avait été raté.
Voilà. Jean-Louis Trintignant qui évoquait la suite d'un homme et une femme tournée 20 ans plus tard. On se souviendra aussi d'un autre couple, celui qu'il formait avec Emmanuel Riva dans Amour de Michael Haneke, rôle qui lui avait valu le César du meilleur acteur. Écoutez, je pensais qu'on allait entendre une première réaction, mais apparemment on l'écoutera un petit peu plus tard. Selon son épouse, Jean-Louis Trintignant est mort paisiblement de vieillesse ce matin chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches. Ses obsèques seront célébrées dans l'intimité. L'actualité ce soir, c'est aussi la canicule. 14 départements placés en vigilance rouge sur la façade atlantique et dans le sud-ouest. 56 en orange, soit 45 millions de personnes concernées. Conséquence, la concentration d'ozone dans l'air est en nette augmentation sur une grande partie de la France. Ça concerne notamment la région parisienne, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Normandie et l'Occitanie. Les automobilistes doivent réduire leur vitesse de 10 km/h en Île-de-France. Et demain, seuls les véhicules avec vignette critères de 0 à 3 pourront circuler. Enfin, Boris Johnson, de retour à Kiev, visite surprise du Premier ministre britannique qui s'était déjà rendu en Ukraine début avril. Aujourd'hui, la Commission européenne recommande d'accorder à Kiev le statut de candidat à l'Union. Pour cette première étape, il faut maintenant un vote unanime des 27.
Merci Hélène Zelani. À tout à l'heure pour le grand journal de 19h où il sera bien entendu beaucoup question de la mort de cet immense acteur qu'était Jean-Louis Trintignant.
Europe 1. La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Et comme tous les vendredis soirs, je suis entouré de Bruno Jeudy. Bonsoir.
Bonsoir
rédacteur
Pierre.
En chef politique à Paris Match. Bonsoir à Jacques Seret.
Bonsoir Pierre.
Du service politique d'Europe 1. Bonsoir à Pascal Sault, directeur
Bonsoir.
Adjoint de la
Bonsoir,
rédaction.
Pierre.
Du journal du dimanche. Alors Jacques Seret, il a encore des dents de lait, donc je ne vais pas lui poser la question, mais Bruno et Pascal, quand même, Jean-Louis Trintignant, ça nous fiche tous un coup quand même, hein, Pascal.
Bah oui, c'est un acteur qui était au sommet depuis si longtemps, qui a traversé plein d'épreuves personnelles très dures en plus, donc il y avait un attachement fort à sa personnalité, à son travail, parce qu'il a quand même tourné dans des films qui ont marqué l'histoire du cinéma français. On a entendu tout à l'heure la célèbre musique d'un homme et une femme.
On
et
pouvait pas passer à côté.
D'autres,
hein.
Il y a eu d'autres films aussi tout aussi forts dans lesquels il a brillé. Donc c'est un moment important dans l'histoire du cinéma et un moment de deuil qui, je pense, qui va toucher beaucoup de gens.
Bruno Jeudy.
Oui, c'est vrai que je partage absolument ce que vient de dire Pascal. J'ai plus de dents de lait, donc j'ai beaucoup de souvenirs de films de Jean-Louis Trintignant. C'était une personnalité... avec beaucoup de parcours douloureux aussi. On a suivi, les Français ont suivi ça. Et ça fait partie de ces acteurs qui ont construit la légende du cinéma français. Il y a quelques mois, c'était Jean-Paul Belmondo qui est mort. Là, c'est Jean-Louis Trintignant. C'était un autre registre du cinéma français. Alors évidemment, la musique, vous avez raison, c'est Jean-Louis Trintignant, c'est d'abord une voix, c'est ensuite un air de musique. Mais c'est aussi des films forts. Moi, j'ai bien aimé Z, par exemple, qui est quand même un des grands films.
C'est Costa Gavras,
Costa Gavras. Ouais. Et puis c'est aussi voilà, c'est aussi quelqu'un qui était pilote. Enfin ouais. Voilà, il avait beaucoup de, c'était éclectique quoi.
Bon, on reviendra de toute façon sur la mort de Jean-Louis Trintignant tout à l'heure dans le journal de 19h. On va nous parler d'une autre musique, celle des législatives qui, avec ce deuxième tour dimanche, arrive et se termine. Évidemment, il y en a un qui n'a pas perdu le nord, si j'ose dire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui, encore ce matin sur BFM TV, garde un objectif très très clair.
Vous serez où lundi matin ?
Eh bien, je serai chez moi, voulez-vous que je sois. Bah, j'attendrai le coup de téléphone du président de la République pour me demander de former le gouvernement.
Voilà. On a dit quand même que Jean-Luc Mélenchon avait fait cette campagne de publicité. C'est-à-dire, c'est digne de Jacques Séguéla, là. Hein. On est vraiment là dans le marketing pur et dur, le marketing politique, alors que Marine Le Pen s'était complètement assoupie au lendemain du second tour. Il a occupé l'espace, il a dit qu'il serait élu Premier ministre. Et là, évidemment, première question, première réponse. Bruno Jeudy, ça vous étonne ?
Non, de la réponse de Jean-Luc Mélenchon ne m'étonne pas. Jean-Luc Mélenchon a relevé le gant. Comme on dit dans les duels naguère, oui, et il a décidé de l'engager, là où Marine Le Pen a renoncé à poursuivre le duel à distance avec Emmanuel Macron après sa défaite à la présidentielle. Il faut reconnaître que sur le plan purement stratégique et tactique politique, ça a plutôt fonctionné. Il ne fait pas un score mirobolant au premier tour, mais n'empêche, son alliance bouscule le jeu. Et qui aurait imaginé, au terme de cette séquence électorale de 2022, qu'il y aurait un peu de suspense dimanche soir, pas grand monde à vrai dire, et après la campagne de premier tour de l'élection présidentielle et même au début de la NUPES il y a 6 semaines, ça paraît une éternité. Donc moi je continue à penser que ce sera compliqué pour Jean-Luc Mélenchon d'avoir le coup de fil lundi matin. Mais après faut jamais...
Voilà. On regarde quand même les projections, hein, 255-290, je parle en termes de sièges, de projections pour Ensemble.
C'est à l'avantage d'Ensemble,
200 pour NUPES.
Il faut un sursaut du premier parti de France, qui était les abstentionnistes.
Bon, Jacques Seret, pour Europe 1.
Bon, en tout cas, on peut dire que le pari est réussi, le pari de Jean-Luc Mélenchon, depuis le début. C'est-à-dire qu'il a réussi à instiller l'idée auprès d'une partie des électeurs qui pourrait, en du moins, instiller
le doute.
Il y
en a même qui ont oublié que ce n'est pas lui qui est arrivé second.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il a créé la
présidentielle.
C'est instiller tout au long de cette campagne des législatives la possibilité que peut-être il pourrait arriver à Matignon. Et au final, même ceux qui peuvent suivre de loin la politique sont arrivés à se poser la question, mais est-ce qu'il pourrait vraiment terminer à Matignon ? Et donc au final, oui, c'est une campagne plutôt réussie de ce point de vue-là.
Pascal Sceau, pour le JDD.
Il y avait une espèce d'ambiguïté qui ressortait dans beaucoup de sondages et sur laquelle, je pense, il a dû s'appuyer, qui était que... une majorité de Français ne voulait pas que le président de la République réélu, Emmanuel Macron, ait une majorité absolue. Donc, il a surfé là-dessus et c'était la bonne stratégie, comme l'ont dit tous les deux, et Bruno et Jacques. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, quoi qu'il arrive finalement, ça restera quand même une petite victoire pour lui, parce que même si... il est peu probable qu'il obtienne la majorité absolue, la majorité qui lui permette de postuler au poste de Premier ministre. Il restera qu'il a fait progresser très largement son camp, qu'il a réussi un peu au forceps, mais il a réussi quand même à unir la gauche. Donc voilà, il restera comme l'un des vainqueurs. Et en plus, il pourra se placer comme l'un des chefs, sinon le principal chef de l'opposition à la nouvelle majorité.
Alors, petit retour sur cette semaine politique, c'était mardi soir. Emmanuel Macron s'envolait du tarmac d'Orly et justement pour, appeler justement les électeurs à voter pour Ensemble. Voilà ce qu'il disait sur ce tarmac et on va s'intéresser à un mot en particulier dans son discours.
J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République.
Aucune voix ne doit manquer à la République, dit Emmanuel Macron, République tout court. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon est en meeting à Toulouse et voilà ce qu'il répond.
Son bateau coule, Macron prend l'avion. Avant de partir, il nous a fait un sketch sur le tarmac. C'est la mode à la Trump. Je veux juste espérer que le président français n'aille pas prendre toutes les mauvaises habitudes de M. Trump.
Bon, voilà, ça c'est œil pour œil, dent pour dent, j'allais dire. Hein.
Mais il nous a rejoué un peu.
Bruno, je dis.
J'allais dire, pour être un peu ironique, Emmanuel Macron nous a rejoué « C'est moi la République », mais dans l'autre sens. Mmh. Je trouve que c'était surjoué.
La République, c'est moi, oui, lors de la perquisition des locaux de dit, Jean-Luc Mélenchon.
Qui avait dit bien abusivement et de manière très agressive,
Jean-Luc
Mélenchon, et ça lui avait beaucoup coûté, y compris judiciairement. Et il ne l'a jamais regretté, mais in petto, sûrement. Je trouve que là, Emmanuel Macron a inversement surjoué, dramatisé le vote utile parce qu'il était sans doute fort marri des résultats du premier tour. Parce que quand même, quand on regarde un peu les résultats du premier tour du camp macroniste, certes, ils sont en tête d'une courte voie, mais c'est quand même un recul. Et surtout, c'est un recul et par rapport à 2017, sûrement, arithmétiquement, mais également, j'allais dire, par rapport à la campagne présidentielle qui n'était pas si lointaine, on a l'impression qu'elle a été totalement absorbée, oubliée par les électeurs. Et c'est vrai que Pascal l'expliquait tout à l'heure, on a l'impression que les Français ne veulent pas donner la majorité à Jean-Luc Mélenchon, sinon il aurait fait un score bien meilleur dimanche dernier. Mais ils ne veulent pas non plus donner un blanc-seing à Emmanuel Macron. C'est un peu le paradoxe de ces élections législatives. Et Emmanuel Macron, à vouloir enjamber toutes les élections comme il l'a fait, ça lui a plutôt réussi à la présidentielle, ben là, il tombe sur un os cette fois-ci.
On peut le dire parce qu'il y a eu quand même, en tout cas, les candidats de la NUP ont réussi à détraquer le discours macroniste beaucoup pendant cette dernière campagne.
Moi, ce qui me frappe...
En disant, même, vous allez voter pour M. Macron, ça signifie ceci, ça signifie cela, c'est la fin de la démocratie...
Le cachet, l'argent caché, etc.
Voilà. Il y a eu ce slogan, quand même.
Ce qui, moi, m'a frappé plutôt, c'est le fait qu'en réalité, les électeurs peuvent être un peu surpris par la stratégie du président. Il y a cette mise en scène très dramatique, avec le tarmac, l'avion qui part en plus sur une zone de guerre, dans un endroit dangereux et où il se passe des choses graves pour la planète et pas seulement pour la France. Et d'un autre côté, les gens se rappellent quand même que entre les deux tours de l'élection présidentielle, ils disaient pas exactement la même chose des mélenchonistes. Au contraire, il avait un peu tendance à leur faire un appel, à faire barrage au Front National, à dire, on entendait des ministres, des candidats qui disaient, ou des futurs candidats aux législatives qui disaient, mais finalement, on n'est pas si différent que ça.
Mais ça, c'est le jeu politique, non ?
C'est le jeu politique, mais en même temps, l'électeur n'est pas si...
Regardez Jacques Seray, il est mort de rire.
L'électeur n'est pas si bête. Je veux dire, comment il peut comprendre qu'on lui explique à un moment qu'on n'est pas si loin ? Et puis après, c'est les bolcheviks avec le couteau entre les dents. C'est un peu difficile.
On continue sur le marketing politique, Jacques Seray.
Oui, les stratégies détraquées, vous disiez. Parce qu'en fait, le problème, à mon avis, de cet entre-deux-tours, c'est que la Macronie a employé exactement la même stratégie que celle de l'entre-deux-tours de la présidentielle à celle aujourd'hui des législatives. Alors que l'adversaire n'est pas le même. C'est-à-dire stratégie de la dramatisation, tout simplement. On l'a vu avec quand Emmanuel Macron devait affronter Marine Le Pen lors de l'entre-deux-tours pour la présidentielle. Dramatisation face à Jean-Luc Mélenchon. Sauf que les adversaires ne sont pas les mêmes. Et les électeurs à convaincre des deux côtés, finalement, entre-deux-tours présidentiels, à les convaincre la gauche et là, à les convaincre la droite, finalement, on ne peut pas les convaincre en ayant le même discours. Et donc, ce discours se retrouve à être malléable et pas clair, finalement, pour l'électorat.
On a une très très ancienne inconnue, c'est à nouveau l'abstention, même si elle commence à être un peu connue, malheureusement. Comment est-ce qu'elle va planer ? Certains observateurs se disaient, il va y avoir un sursaut, puis finalement, les sondeurs nous disent pas du tout. Au contraire, elle va être encore plus massive qu'au premier tour.
D'abord, on a le précédent 2017. Elle avait augmenté au deuxième tour par rapport au premier tour. Alors, il faut dire qu'en 2017, il y avait vraiment plus d'enjeux au second tour, tant la majorité macroniste de l'époque allait être large et évidemment nette. Cette fois-ci, il n'y a aucun signe qui montre une mobilisation, un sursaut de mobilisation dimanche. Donc le premier parti de France, c'est le parti des abstentionnistes. Et s'il y avait une mobilisation, on peut même imaginer qu'elle serait en faveur de Jean-Luc Mélenchon, puisque finalement la petite dynamique est plutôt dans ce camp-là. Donc pour l'instant, on est plutôt, j'allais dire, sur un deuxième tour qui risque de se jouer à périmètre égal. Donc, c'est celui qui mobilise le mieux son camp. Les jeunes pour Jean-Luc Mélenchon, on a vu qu'il n'avait pas totalement récupéré ce qu'il avait pu mobiliser.
Et puis des figures, des histoires, comme cette femme de chambre d'hôtel qui a réussi à
s'imposer
aussi. La nouveauté,
de ce point de vue-là, ce que vous indiquez, c'est les profils des candidats mélenchonistes.
Tout ça, ce sont des histoires d'hommes, en fait, et de femmes.
Les histoires d'hommes et de femmes, comme vous dites, elles sont aujourd'hui dans le camp de la NUPES. En 2017, elles étaient dans le camp de La République en Marche.
Dans La République en Marche, ça reste très statutaire, j'allais dire.
Alors que
le storytelling, il était du côté de LREM en 2017.
C'est toujours plus difficile de vendre de la continuité, de la nouveauté. Or, la continuité, elle est forcément dans le camp macroniste, puisqu'il a été réélu. Il faut rappeler quand même qu'il est en train quand même de réaliser aussi une performance dans la 5e République. Il a été le premier président réélu hors période de cohabitation. Et s'il gagne les législatives, on va dire qu'il serait... En tous les cas, ce ne serait pas le premier, mais enfin, c'est assez rare que les majorités se succèdent sous notre régime de la 5e République.
Jacques Seret, pour Europe 1.
Mais il a été le premier président à être réélu une nouvelle fois lors d'un quinquennat. Il pourrait être aussi le premier à ne pas avoir une majorité au lendemain d'une élection présidentielle.
Il y a eu Michel Rocard quand même.
Relative. 80, il pourrait avoir une majorité relative.
Ce sera la deuxième fois qu'on aura une majorité relative
Pour que les auditeurs comprennent bien, qu'est-ce que ça signifie une majorité relative?
Ça veut dire que dimanche soir, pour nos auditeurs, c'est simple, il n'aurait pas 289 députés. 289
mais est-ce que c'est grave, docteur?
Oui, c'est grave. Pourquoi? Parce que ne pas avoir la majorité absolue, c'est l'assurance de ne pas pouvoir, j'allais dire, dérouler son programme comme l'a promis le président, si tant est qu'il tienne toutes ses promesses. En tous les cas, s'il n'a pas la majorité absolue, il sera obligé d'aller chercher des voix dans les autres groupes pour pouvoir composer et faire passer ses textes.
Et en plus, il y a une difficulté supplémentaire à la période précédente, donc celle de 1988, quand Mitterrand n'a eu qu'une majorité relative. C'est qu'à l'époque, il y avait une espèce de sésame magique qui s'appelait l'article 49.3 de la Constitution, auquel Michel Rocard, en 2 ans et demi de gouvernement, a recouru à 28 reprises. 28 reprises, vous rendez compte, ça veut dire une fois par mois. Et maintenant, en réalité, maintenant, la loi n'autorise plus ce recours systématique, elle limite à une fois par session. Alors, il peut y avoir des sessions extraordinaires. Bon.
Pour qu'il n'y ait pas d'abus.
Mais en tout cas, ça peut difficilement être plus de 2 fois par an au maximum. Donc, évidemment, ça oblige à trouver une culture du compromis. Et c'est là que tout un débat qui est aussi en arrière-plan de ce deuxième tour, c'est avec qui, éventuellement, ensemble pourrait s'allier. Est-ce que c'est avec les Républicains, un certain nombre des Républicains? Est-ce que c'est avec des éventuels socialistes dissidents? C'est la question.
C'est la question. 18h17, première pause dans cette semaine politique. On revient juste après avec Bruno Jeudy de Paris Match, Pascal Saut du JDD et Jacques Seret d'Europe 1. A tout de suite.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneau.
Avec autour de cette table Pascal Saut, le directeur adjoint de la rédaction du JDD, Jacques Seret du service politique d'Europe 1 et Bruno Jeudy, directeur en chef politique à Paris Match. Il nous reste un point à voir concernant ces législatives qui approchent. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous dimanche pour cette grande soirée électorale à partir de 18h sur Europe 1. Les ministres, il y a quand même des ministres qui avaient une épée de Damoclès au-dessus d'eux en disant voilà, obligation de résultat, si vous n'êtes pas élu, vous sortez du gouvernement. Et Jacques Seret, il y en a trois où on n'est pas sûr que ça passe.
Oui, trois ministres, Clément Beaune, Amélie de Montchalin et Stanislas Guérini. Tout simplement, trois personnalités aujourd'hui qui sont membres du gouvernement et qui sont clairement menacées, qui dès dimanche soir pourraient devoir tout simplement démissionner.
Et on sait déjà ce qu'ils ont comme plan B pour leur avenir?
Il n'y a jamais de plan B avant une élection. C'est-à-dire, en tout cas, ils ne l'avoueront jamais. Pour avoir suivi Stanislas Guérini en reportage hier soir, il se dit au combat, combatif, confiant aussi. En tout cas, il ne veut pas croire à une éventuelle défaite. Donc, ils mettent toutes leurs forces dans la bataille, en tout cas officiellement ne pensant à aucun plan B.
Pascal Saut.
Ce qui est intéressant dans leur cas, ce n'est pas tellement le nombre, parce que 3 sur 15, finalement, voilà. C'est plutôt leur identité, en fait, parce que Stanislas Guérini, ça a été le chef du parti. Il incarne d'une certaine manière l'histoire du mouvement. Clément Beaune, c'était quand même un ministre plutôt bon, qui a plutôt bien fait son travail.
Et proche du président.
Et très proche du président, très apprécié. Et donc, voilà.
Et Amélie de Montchalin, c'est la numéro 5 du gouvernement et voilà, qui incarne la transition écologique.
En charge d'une émission considérée comme les plus importantes par le président de la République. Donc,
c'est
au
pas
niveau
des ministres de seconde
du point de vue symbolique, mmh. du point de vue symbolique, si ces trois-là étaient venaient à être battus, ce serait quand même un choc.
C'est-à-dire que je partage ce que dit Pascal, c'est-à-dire que c'est, on verra, mais si c'est, il y a trois ministres en difficulté, c'est-à-dire des ministres qui seraient battus dimanche soir, ajouter une majorité relative, ça ferait pas une très très bonne soirée pour le président de la République et sa première ministre Elisabeth Borne, qui elle-même est candidate, mais ça devrait passer. Elle a plutôt fait un premier tour assez correct, donc dans une circonscription, le risque n'est pas non plus très très élevé. Mais enfin bon, une élection, ça se gagne. Donc ce serait quand même compliqué. J'ajoute que la majorité relative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le président n'a pas 289 sièges. Mmh. Ensuite, mmh. il y a majorité relative et majorité relative. Si c'est raté de 2-3 sièges, bon, c'est compliqué, mais Monsieur Macron, Madame Borne auront les moyens de pouvoir aller trouver des députés qui seront conciliants ou bienveillants avec le gouvernement et qui voteront les textes. Si c'est 15 ou 20 sièges qui manquent, ça devient nettement plus compliqué et ça devient doublement compliqué parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a les ministres qui seront élus dimanche. Ils vont donc ne pas siéger à l'Assemblée. Leurs suppléants n'arriveront à l'Assemblée qu'un mois plus tard, c'est le règlement. Ça veut dire qu'ils ne seront pas avant le 19 juillet à l'Assemblée. Et donc, d'ici le 19 juillet, pas possibilité de voter des textes.
Ouais. Ouais.
Et ça peut retarder considérablement l'action du gouvernement qui déjà a pris du retard.
C'est assez étrange cette règle du par exemple, suppléant qui n'arrive qu'au bout d'un
mais
mois.
Mais ça, c'est le règlement depuis toujours.
Oui, pardonnez-moi, je trouve que c'est étrange, voilà.
Non, c'est le règlement intérieur, c'est-à-dire que...
Mais ça veut dire qu'il n'est pas représenté.
Le siège n'est pas représenté, mais ça n'empêche pas l'Assemblée de fonctionner. Et puis bon, 15 ministres, c'est 15 suppléants.
Mais ça empêche, comme vous disiez, de voter
des textes. Mais voilà, ça veut dire que pour voter, pour élire le président, il peut y avoir un problème de majorité. Pour voter la confiance à la Première ministre, il peut y avoir un problème de majorité. Et puis pour voter le premier texte sur la loi pouvoir d'achat, il peut y avoir aussi un problème de majorité. Donc, attention, cette soirée peut entraîner de grandes conséquences.
Ouais, grande conséquence. Et en attendant, nous, on a un président qui a revêtu à nouveau son costume préféré, qui est celui de chef de guerre et d'homme de l'international plutôt que des affaires nationales. On a appelé ça le petit train, à mon avis, évidemment à tort, puisque c'était quand même une belle délégation que celle du président français, du chancelier allemand, du président du conseil italien et du président roumain d'aller à Kiev. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était hier après-midi justement dans la capitale ukrainienne.
Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Dès demain, la Commission européenne posera le cadre de la discussion et des décisions majeures seront prises la semaine prochaine à Bruxelles par le Conseil. C'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple.
Voilà donc pour le discours d'Emmanuel Macron, immédiatement taillé par certaines figures de l'opposition, dont Marine Le Pen, qui n'y voit là qu'une démarche électoraliste.
Je note que Emmanuel Macron ne fait jamais rien ou ne dit jamais rien sans avoir une arrière-pensée électoraliste. C'est-à-dire que Emmanuel Macron se sert de cette posture, en quelque sorte, de chef de guerre pour tenter d'avoir une influence sur les élections législatives. C'est lui qui fait un mélange des genres. Il ne peut pas aujourd'hui reprocher qu'on lui en fasse grief.
Voilà. Alors, électoraliste ou pas, docteur Serret ?
En tout cas, le décalage était saisissant.
C'est dingue,
Décalage, à la fois cette prise de parole sur le tarmac, voilà, qui a marqué les esprits, qui a marqué cette semaine d'entre-deux-tours. Après, ce déplacement était prévu de longue date, dans tous les cas, en Ukraine, de la part du président. Ouais. C'était difficile de ne pas y aller.
À quatre, c'est difficile de prévoir ça la veille.
Voilà, c'était en même temps difficile pour Emmanuel Macron de ne pas y aller avant la fin de son mandat, entre guillemets, confier à la France de présider le Conseil de l'Union européenne. Il l'aurait fait avant la présidentielle, il aurait eu la même accusation. Il le fait là, à ce moment-là.
C'est la Suède qui prend le relais, je crois, après la présidence française.
Non, je crois que c'est la République tchèque.
République tchèque.
D'abord la République tchèque.
Pascal Sceaux,
sur... Bah, je ne sais pas, c'est assez difficile. Alors l'interprétation politique, bah, elle est un peu naturelle en période électorale. Donc voilà, chacun joue son jeu, ça n'a rien d'anormal. Après, il faut peut-être penser quand même que les circonstances justifiaient peut-être un peu plus ce déplacement, dans la mesure où quand même on a le sentiment, au regard de ce qui nous est rapporté, que sur le champ militaire, ça ne se passe quand même pas très bien pour les Ukrainiens.
Ouais.
Que dans le Donbass, les Russes poussent très fort. Il y a des chiffres qui sont quand même effrayants. 50 000 bombes qui sont déversées chaque jour par les Russes contre 5 000 par les Ukrainiens.
Les Russes avaient promis un Grozny.
Voilà, donc c'est une, cas, une espèce d'enfer. Ouais. Et quelque part, il pouvait sembler nécessaire aux leaders aux trois pays principaux. J'ai rien contre la Roumanie, mais en tout cas aux Allemands, aux Français et aux Italiens, c'est-à-dire les trois principaux pays de l'Union européenne, de montrer par un signe très fort leur soutien à l'Ukraine et à Zelensky. Donc peut-être, ça peut être aussi quand même un élément d'explication sur ce déplacement.
La Roumanie était nécessaire puisque c'est la base arrière, évidemment, de plein de bataillons.
Mais en termes symboliques, évidemment, le fait que les trois principaux pays de l'Union soient là, ça a une force.
Bruno Jeudy, sur justement ce déplacement des chefs d'État à Kiev. Et cette réaction aussi de Marine Le Pen, qui voit là uniquement une démarche électoraliste. On est là dans le marketing politique, j'allais dire, de base, pour en approche de ce second tour des législatives.
Non, moi, je n'aurais pas une approche aussi négative que certains. Je pense que, bon, effectivement, les Français, comme on disait, je ne sais plus quel philosophe, les Français arrivent tard, mais ils arrivent. Oui, on peut ergoter. Je pense que le président de la République, d'ailleurs, il y a réfléchi. Il voulait y aller plus tôt. Il y a eu beaucoup d'allers-retours dans le choix d'y aller, notamment avant la présidentielle ou dès le début du conflit, puisqu'il était allé à Moscou et à Kiev à la veille de l'invasion russe en Ukraine. Ensuite, ça a été reporté 10 fois. Il a voulu coordonner un voyage avec les Allemands. Ça a été assez long. Et puis finalement, ça intervient à la veille de la fin de la présidence française. C'était un minimum, de toute façon, d'y aller. Bon, effectivement,
Boris Johnson y est, d'ailleurs.
Oui,
là,
Boris Johnson, je crois que c'est la deuxième fois qu'il y va.
C'est la deuxième fois.
Ursula von der Leyen y est allée 2 fois. L'Italien est allé 2 fois. Donc, tout le monde y est allé à l'arrivée. Donc, bon, voilà, on pourra toujours le reprocher au président d'y être allé dans l'entre-deux-tours des législatives, peut-être. Je crois que l'essentiel, c'était d'y aller, d'essayer d'effacer aussi le différend ou l'imbroglio né des mots d'Emmanuel Macron et qui a créé une hostilité au moins de la presse ukrainienne vis-à-vis de la France et du président français, avec ce mot qui est devenu célèbre en Ukraine, macroné, c'est-à-dire parler pour ne rien dire. On veut de passer des coups de fil à Poutine.
Et de pas humilier les Russes.
Oui, voilà.
Ça,
bon, voilà, bon, je pense que Emmanuel Macron s'inscrit globalement dans une certaine tradition d'une diplomatie française qui pense que entre les superpuissances, elle peut faire œuvre de puissance diplomatique et qui mette les gens autour d'une table. Moi, je crois que c'est la tradition française et qu'il la respecte et qu'il s'inscrit dans les pas de ses prédécesseurs. Mais voilà, avec Emmanuel Macron, il y a toujours aussi un peu de mise en scène. On l'a dit tout à l'heure, le tarmac, tout ça. Bon, c'est peut-être un peu trop, oui, effectivement. Mais bon, il fallait y aller, il y est allé. Maintenant, il faut être efficace aussi. J'observe que sur la livraison d'armes, la France a longtemps tardé à vraiment y aller.
Les canons César, notamment.
Ouais. Un 6 supplémentaire.
Comme je vous l'ai dit, les Français arrivent tard, mais ils arrivent.
L'affaire du Stade de France, ça fait partie aussi de notre semaine politique, puisque les sénateurs ont dénoncé un fiasco de l'État, fin des auditions des différentes parties cette semaine, avec les conclusions rendues au Sénat. Écoutez tour à tour Laurent Lafon, sénateur membre de la délégation, et François-Noël Buffet, président de la commission des lois au Sénat.
Tout cela donne l'impression qu'il n'y a pas de responsable, et puisqu'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable.
Le préfet a clairement dit que son choix était d'abord la gestion des supporters et pas la gestion de la sécurité publique, donc de la délinquance sur le site. C'est un choix qui a été assumé par le préfet de police, mais c'est incontestablement un choix qu'on ne peut pas considérer comme étant un bon choix. Il aurait été utile de conserver ces images. Cela dit, rien n'a été fait. Et je redis qu'il était présent dans le centre de contrôle l'ensemble des autorités, y compris politiques. Il est incompréhensible que personne à un moment ait dit « il faut les conserver, on en a besoin ». Ça, c'est pas pensable.
Voilà, c'est un peu comme dans Mission Impossible, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est les images qui s'autodétruisent au bout d'un certain temps. Pas content, les sénateurs, là, il y a de quoi ?
Il y a de quoi. C'est effectivement un terrible fiasco. La France s'était proposée comme roue de secours face à la défection des Russes provoquée par la guerre. Et bon, là, c'est une catastrophe. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est dans le rapport qui a été rendu par les sénateurs et l'étude qui a été faite des événements, c'était extrêmement rude pour la préfecture de police. Mm-hmm. C'est le préfet de police qui vraiment est mis en cause.
Didier Allemand,
alors bon, ça tombe bien, vous me direz, il s'en va bientôt, mais néanmoins, ce préfet qui avait, vous vous rappelez, était arrivé dans des circonstances un peu comme un homme à poigne face aux gilets jaunes après l'éviction de son prédécesseur Michel Delpuech. Là, il est vraiment mis en défaut, pris en défaut par l'enquête qui a été faite. Il a refusé plusieurs propositions sur l'organisation du flux des spectateurs qui auraient pu éviter la tournure des choses telle qu'elle s'est finalement dramatiquement passée. Enfin, dramatiquement, relativement, parce que ce qui est le plus important quand même, il faut dire, c'est qu'il n'y a pas eu ni blessés, ni morts dans cette opération, parce que ça peut arriver malheureusement dans les stades, mais ça a été une catastrophe, et en plus ça a été une catastrophe vue par le monde entier, parce que la finale de la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui est très suivi dans toute l'Europe, même au-delà. Et là,
notre orgueil de pays, qui se voulait champion de l'organisation d'événements sportifs.
Qui organise aussi les JO
et la Coupe du Monde de rugby en 2023.
La Coupe du Monde de rugby en 2023. 2 millions de personnes attendues pour la Coupe du Monde de rugby, 14 millions pour les Jeux Olympiques de Paris, dont 600 000 le soir. Enfin, le jour de l'ouverture des Jeux, avec 600 000 personnes le long des berges de Seine. Donc là, il va quand même falloir que Gérald Darmanin et les autorités de sécurité du pays revoient leur copie de fond en comble.
Qu'on s'écoute, non, parce que là, on a appris quand même beaucoup de choses lors de ces auditions au Sénat. Et on voit que la Fédération Foot avait proposé notamment de mettre des panneaux pour... réguler les foules en amont de l'arrivée
du préfiltrage.
Non, mais il y a eu beaucoup. Et puis à chaque fois, on a dit laissez-nous faire.
La préfecture de police, le préfet de police, mais aussi le ministre de l'Intérieur, ont mis plusieurs jours avant de reconnaître leur tort et le fiasco. Gérald Darmanin, il a attendu d'être auditionné devant le Sénat pour reconnaître et présenter ses excuses. Oui. Et le préfet de police, lui, a pris sa part de responsabilité, son entière responsabilité, a-t-il dit, pour d'abord reconnaître que le chiffre de 30 à 40 000 faux billets, bon, il l'avait avant.
C'était 2800.
Il l'avait inventé. Ça racontait n'importe quoi dans cette histoire. Et à Marie-Match, on est retourné à Liverpool voir les supporters.
Oui, c'est dans votre journal.
Qui restent remontés contre la France. Alors, on va dire que c'est un peu habituel outre-Manche. Enfin, il y a des banderoles contre Darmanin sur le stade. Enfin, ils sont très remontés. Hein.
Ils vont
déposer plainte. Ils veulent le remboursement des billets.
Il y a une sorte de double faute. Il y a le problème de l'accès au stade pour assister à la finale. Et puis il y a le problème de ce qui s'est passé à la fin du match, où il y a quand même eu des agressions à répétition visant les supporters par des gens qui voulaient les dépouiller, par des voyous. Et là, la police était quand même assez absente. Donc,
mais c'est ce qui est le plus terrible, finalement.
Deuxième faute.
Qu'ils assument ou pas leur responsabilité, bon, c'est un problème politique, finalement, interne à la France. Mais le sujet, c'est l'image que ça renvoie à l'international. Et l'image que ça renvoie, c'est qu'on a des visiteurs, des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent chez nous, et qu'on les accuse finalement, d'être responsables, d'entre guillemets, d'un bordel ambiant. Alors que les fautifs, pour la grande majorité, et ce qui ressort après une quinzaine de jours, c'est que les fauteurs de troubles, ils sont chez nous, ce sont les nôtres, et ce sont des gens qui habitent ici autour du Stade de France.
On les accueille mal et on les protège mal. On les protège mal. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui se dit « Tiens, bah, j'irais bien assister à quelques matchs de la Coupe du Monde de rugby ou quelques épreuves des Jeux Olympiques », vous voyez ça, vous dites, si à Paris, quand on arrive, on risque de se faire piquer toutes ces affaires.
Je vais plutôt pas y aller.
Je vais rester chez moi.
À la télé, hein, c'est mieux. Nous, on est à la radio et pas à la télé. On marque une pause et dans un instant, on revient dans cette semaine politique. JDD Europe 1 Paris Match, puisque dans Paris Match, Édouard Philippe arbore un pantalon blanc. Il est, je pense, au Havre. Oui, c'est ça, c'est au Havre. Et il regarde à l'horizon. A tout de suite.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec jusqu'à 19h, Pascal Saul, directeur adjoint de la rédaction du JDD, Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique à Paris Match. Bruno, c'est vous qui signez cet article dans Match. Édouard Philippe, maître à bord.
Moi, j'ai compris dans votre article que c'était d'une certaine manière le fer à souder entre les LR et la majorité ensemble, qui est, comme on l'a dit précédemment, pas sûr d'avoir une majorité absolue. J'avais compris un peu plus tôt dans l'année que finalement ce rôle de fer à souder était plus vraiment vrai, parce qu'il y a eu Thierry Soler, il y a eu aussi des LR qui venaient tout seuls auprès de la Macronie. Bon, ben finalement,
Nicolas Sarkozy.
Ouais, il y a eu Nicolas Sarkozy. Bon, et puis finalement, il reste, comme vous le dites, maître à bord.
Mais c'est-à-dire que surtout les dernières tentatives de rallier des gens de droite à la Macronie, alors ça a fonctionné, très bien fonctionné, notamment en 2017. Ça a fonctionné aussi au milieu du mandat. Il y a eu les régionales. Et puis là, avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas vraiment été couronné de succès. Il devait amener une vingtaine de députés. Il disait même une trentaine. Bon, voilà, à l'arrivée, il y en a eu cinq, pas plus.
Bon.
Et puis finalement, quand on regarde les résultats des candidats d'Édouard Philippe, qui sont étiquetés Horizon, c'est le nom de son parti, on s'aperçoit d'abord que le seul candidat du camp macroniste qui a été élu au premier tour, c'est un candidat Horizon, Yannick Favennec en Mayenne. Qu'ensuite, il y en a 22 qui sont en tête dans leur circonscription et qui vont pouvoir sans doute être élus dimanche, qui lui assurera un groupe et de l'argent, et donc des moyens pour ses ambitions. Et puis, il n'avait que 58 candidats, mais il en a quand même 44 qui sont qualifiés pour le second tour. Donc, ce n'est pas si mal si on reporte ça aux 62 députés sortants qui ont été éliminés dès le premier tour et qui sont des macronistes.
Et il va jouer aussi le rôle de, là pour le coup, je reprends mon image du fer à souder, entre justement, s'il y a une majorité relative pour Ensemble, tous ces LR qui sont là et qui vont d'une certaine manière accompagner la majorité Ensemble pour le vote des textes quand il manquera des voix.
Alors là-dessus, il dit qu'il faut leur laisser du temps, c'est-à-dire que lui, il ne veut pas que son parti ce soit une machine à laver pour d'anciens LR, ce qu'il l'est quand même un petit peu, mais il ne veut pas que ce soit uniquement ça. Et puis, sans lui, il dit les élus qui franchissent le Rubicon, certains vont mettre du temps à aller dans un parti. Lui, il pense que d'ici 6 mois, 1 an, beaucoup finalement se diront c'est pas si mal chez Édouard Philippe. C'est son pari, parce qu'il y a un côté un peu, c'est un peu la Suisse, Horizon, entre les macronistes et les LR. C'est-à-dire que c'est une espèce de sas de décontamination. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a un petit côté. On va se réfugier chez Édouard Philippe. On peut dire qu'on est de droite. Voilà, alors que bon, chez Macron, il faut encore dire qu'on est de droite et de gauche, donc c'est pas toujours si facile que ça. Et puis, ceux qui sont passés deux pieds, qui ont mis les deux pieds dans la Macronie, ils sont pas forcément des forces attractives, ou le sont moins peut-être. Alors si, peut-être pour Bruno Le Maire, Gérald Darmanin peut-être un peu moins, Sébastien Lecornu un peu moins. Donc voilà, donc Édouard Philippe a plutôt, je trouve, repris des couleurs à l'occasion de ce premier tour des législatives.
Comment est-ce que vous le percevez, Édouard Philippe, Pascal Sceaux, pour le JDD?
Je pense que Édouard Philippe, le problème qu'il a finalement, c'est de savoir comment faire usage, et un bon usage, de sa popularité.
Et oui.
Puisque ça, c'est quelque chose qui ne se dément pas. Paris Match, dans tous ses baromètres, le montre, enfin, et toutes les études le montrent. Il reste l'un des plus populaires, sinon le plus populaire des hommes politiques français. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire avec ça? C'est ça la question. Parce que 5 ans, c'est à la fois assez court et en même temps long en politique. Il peut se passer beaucoup de choses, il peut y avoir des nouvelles figures qui surgissent, des changements. Donc, finalement, il reconstruit à partir d'une base. Il a une stratégie, il va avoir un groupe, probablement. Il va exister. Il va peser d'un poids d'autant plus important si effectivement la majorité est relative. Donc il va rester sur le devant de la scène et il aura peut-être la possibilité d'incarner une certaine différence.
Mm-hmm.
Et on sait bien que ça, c'est quelque chose qui plaît.
Jacques Serret.
Il incarne cette différence et il est en campagne. Il a fait campagne pour les candidats qui aux législatives. Alors, peu importe les étiquettes au sein de la Confédération Ensemble, il a soutenu un peu tout le monde. Mais 70 candidats soutenus avant le premier tour pour Édouard Philippe, et dans l'entre-deux-tours, entre lundi et jeudi, donc hier, il a soutenu 17 candidats. Donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire campagne pour que Emmanuel Macron remporte une majorité. Alors voilà, majorité absolue, je pense que peut-être au fond de lui, il espère que cette majorité soit relative pour que son poids compte encore plus.
Mais oui.
Mais en tout cas, la difficulté pour la Macronie, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher de faire campagne, alors qu'au fond, il fait campagne. Certes, et pour Emmanuel Macron, mais aussi surtout pour lui.
Oui, il fait campagne pour lui. Quand on lui dit, je crois que c'est un commerçant qui lui dit « on vous voit en 2027 », il ne se démonte pas, il dit « oui, oui, bien sûr, je suis là ».
Oui, alors, je dis. Pour le coup, sa popularité, puisque bon, c'est vrai, Pascal faisait allusion au baromètre de la popularité des hommes politiques, c'est vrai qu'il a pu la mesurer pendant cette campagne. Il est extrêmement populaire, en plus il est assez lucide, il dit « mais je ne suis pas aux manettes, je ne suis pas candidat, donc bon, je suis moins comptable des promesses », c'est vrai que c'est plus confortable pour lui. Mais les candidats adorent avoir Édouard Philippe dans la circonscription, d'ailleurs j'en ai vu, ça m'a étonné, qui mettait la photo d'Édouard Philippe à côté d'Emmanuel Macron, ce qui est quand même...
Il y en a un qui ne serait pas content, je crois.
Je ne suis pas sûr qu'il serait forcément content. En tous les cas, on ne voit pas, par exemple, la photo d'Elisabeth Borne, alors qu'on voit celle d'Edouard Philippe. Que je sache, Edouard Philippe n'est plus Premier ministre depuis 2020. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important. De toute façon, dans ce camp macroniste, il y a une partie des macronistes qui considèrent depuis le début qu'Edouard Philippe est une sorte d'usurpateur qui est arrivé, qui n'était pas prévu. Il est passé devant François Bayrou, il est passé devant les uns les autres. Et depuis, il n'est pas adhéré à La République En Marche. Et depuis, il y a cette espèce d'acrimonie un peu latente contre lui. Et puis, il y a ceux qui disent « mais il n'a jamais été pris en flagrant délit de critiquer le président ». Et c'est vrai, il fait très attention quand même, globalement, Édouard Philippe. Il dit, voilà. Et puis, il y a un côté... on critique son jupéï. C'est vrai que le jupéï, c'est aussi un peu... il y a une certaine... il est trop orgueilleux pour trahir, dit Richard Ferrand en parlant d'Edouard Philippe. Et c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté-là. Alors peut-être que ça lui... il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus ficelle parfois, comme on dit en politique. Mais il est comme ça, Edouard Philippe. Il fonctionne de cette manière. En tous les cas, sur ces deux tours de législative, comme François Bayrou, avec qui il a plutôt renoué, alors qu'ils n'étaient pas vraiment en bon terme. Ces dernières semaines ont été plutôt permis le rapprochement entre les deux hommes, notamment... ils ne voulaient pas d'un parti unique, ils se sont battus contre l'idée du président de la République du parti unique, ils ont plutôt gagné ce combat, et maintenant on voit bien que s'il y a majorité relative, et si elle...
C'est ça.
Emmanuel Macron sera obligé de tenir compte de ces deux orgueilleux que sont François Bayrou et Édouard Philippe.
Alors c'est amusant parce que vous parliez d'Elisabeth Borne, c'est Nicolas Béthou ce matin sur Europe 1 à travers son billet qui disait qu'il y avait effectivement un générique de campagne, un clip de campagne où on voyait Elisabeth Borne, mais on la voit, je crois, 6 secondes en tout et pour tout. Et ce qui est assez amusant également, c'est que vous parlez de ces candidats qui veulent avoir la photo d'Edouard Philippe, donc pas forcément celle... On a oublié quand même tout le scandale d'avant Covid. On a oublié le fait qu'il y a eu une perquisition chez Edouard Philippe. On a oublié ça, c'est-à-dire qu'il a été... je sais pas, il a été absous, blanchi de... Enfin, c'est quand même incroyable, non le...
ah bah, tout n'a pas été parfait, non, évidemment, enfin, dans le passage d'Edouard Philippe formidable. À Matignon. Mais bon, là, les Français ont la mémoire du poisson rouge. Il y a aussi les 80 cœurs, il y a la taxe carbone, il y a plein de choses.
Quand même
mais il y a un style, il y a aussi une façon de faire ses conférences de presse à la fin... façon de dire je ne sais pas quand Emmanuel Macron peut-être donne l'impression de tout savoir. Enfin, il y a une opposition de style et l'allure. Et Édouard Philippe, c'est un style que les Français aiment bien.
Il est très élégant.
Peut-être qu'il retrouve aussi un peu de Chirac chez lui. C'est un peu Chirac dans un corps de Giscard.
Oui, bah tiens, c'est bien vu ça. C'est pas mal. Jacques Serret, Je rappelais ce qu'on appelle communément des casseroles. C'est pas vraiment des grandes casseroles. C'est pas des marmites, c'est des casseroles. C'est pas des marmites.
Des petites casseroles. Toutes petites casseroles.
Oui, mais depuis 2 ans,
depuis 2 ans finalement, et depuis qu'il n'est plus à Matignon, il a quand même su bien gérer entre guillemets et préparer les esprits au fait qu'il pourrait être le successeur d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que il a su se rendre relativement rare en parlant peu dans les médias et en même temps en entretenant une forme de flou, assez artistique finalement.
Pas de flou parce qu'on va aller à Lille et on va se rappeler certaines phrases.
Il a entretenu le mystère. Il a su entretenir le mystère finalement. Il a sorti un livre avec son comparse Gilles Boyer, qui lui a permis de revenir progressivement sur le devant de la scène, ensuite lancer son mouvement Horizon. Donc c'est une chronologie. Et ce qui se passe là actuellement, finalement, c'est la suite logique de tous les enchaînements, de toutes les séquences qu'il y a pu avoir depuis 2 ans.
Pardonnez-moi ma grandeur, mais c'est quand même assez dément de faire campagne pour 2027. Enfin, je veux dire, c'est dans 2 siècles, 2027.
Le temps est long. Mais pour revenir sur cette question de la popularité d'Edouard Philippe, ce qui est drôle aussi, quand même, qui a été remarqué par plusieurs, c'est que finalement, dans les derniers exemples en date, on devient populaire quand on quitte Matignon. Et il y avait l'exemple de Castex qui était cité, Jean Castex qui avait suscité un véritable scepticisme quand il est arrivé, précisément parce qu'il succédait à Édouard Philippe qui était populaire, donc les Français ne souhaitaient pas voir partir. Et puis là, Castex, depuis qu'il est parti, il est aussi à la hausse. Alors peut-être que Elisabeth Borne doit attendre avec impatience le moment où elle quittera Matignon pour gagner de la popularité de dans le cœur des Français.
Là, vous remarquerez qu'on n'entend plus trop parler de Castex.
Vous êtes taquin, vous laissez entendre qu'elle pourrait battre le record d'Edith Cresson qui est resté 10 mois à Matignon. C'est assez sévère. J'espère qu'elle restera plus longtemps parce que pour les femmes, ce serait quand même encore une fois de plus compliqué. Et il faut et ce serait mieux qu'elle réussisse. Mais c'est vrai que les deux derniers premiers ministres sont devenus extrêmement populaires après leur départ de Matignon, puisque Jean Castex est deuxième personnalité. Juste derrière Édouard Philippe. Donc Emmanuel Macron fabrique des anciens premiers ministres très populaires qui peuvent, alors je ne sais pas si c'est le cas de Jean Castex, mais qui deviennent automatiquement des gens importants dans ce périmètre de la Macronie, qui quand même se retrouve dans une situation assez inédite, puisque même si 2027 c'est loin, Emmanuel Macron ne se représentera pas. Et ça, c'est une première dans notre histoire, c'est-à-dire que le président n'est pas soumis à réélection.
Ouais. On va découvrir le plaisir que connaissent les Américains depuis très longtemps, c'est-à-dire le deuxième mandat d'un président réélu, en général, c'est un peu compliqué. Parce que, précisément, il y a l'idée que, de toute façon, il partira et qu'il ne sera plus en charge. Donc, c'est plus compliqué parfois que le premier.
Jacques Serret ?
Oui, en fait, finalement, ce second mandat va être très court. Souvent, on a l'habitude de dire qu'un mandat, ça dure 3 ans, que les dernières années, on est déjà dans l'après. Et là, on se rend compte que finalement, il vient à peine de commencer, qu'on est déjà en train de parler de 2027, vous voyez ?
C'est quand même incroyable. Enfin, ça, c'est quand même assez nouveau, non ? Ou alors, j'ai la mémoire courte sur...
Sur le deuxième mandat, il y a eu les deuxièmes mandats de Jacques Chirac et de François Mitterrand ont été des mandats.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Il y a plutôt une espèce de malédiction sur les deuxièmes mandats, puisque au fait, eux, ils étaient plutôt âgés, ils se sont concentrés sur l'international.
Il y a eu des maladies.
Ce ne sont pas des mandats qui ont été couronnés de succès. Là, Emmanuel Macron, c'est différent. Il n'est pas dans cette situation. C'est inscrit dans notre Constitution et pour la première fois, on applique la réforme de 2008 qui conduit à ce que le président de la République ne puisse faire que 2 mandats. Et là, c'est un ministre qui explique qu'un président qui ne peut pas se représenter, c'est un homme qui est enfermé dans une pièce avec une dose d'oxygène. Et donc, tout le jeu consiste à économiser cet oxygène pour pouvoir tenir le plus longtemps possible dans ce mandat.
Eh bien, dis donc, il y en aura eu des images dans cette émission. Merci à vous trois. Édouard Philippe, maître à bord à lire dans Paris Match. Sans doute beaucoup de choses très intéressantes dans le JDD. Dimanche, on reparlera évidemment des législatives dimanche. J'aurai le plaisir de vous présenter la première partie de la grande spéciale à partir de 18h. Merci à vous trois, Jacques Serret, Bruno Jeudy, Pascal Sault. Restez avec nous dans un instant, le journal de 19h, où on parlera bien sûr beaucoup de Jean-Louis Trintignant. L'acteur est disparu, mort à l'âge de 91 ans. Et puis juste après, un point de vue acéré sur l'Europe et ses enjeux. En pleine crise internationale, bien sûr, avec l'Ukraine, Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman, rentre tout juste d'une tournée européenne. A tout de suite.
La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.